Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, la presse. Au programme, quand la positivité devient toxique. Révolution tranquille. Et un examen médical. En as-tu vraiment besoin? Bonne écoute.
Quand la positivité devient toxique. Un texte de Leïla Malouf paru le 4 juin 2023 dans la presse. Oui, la positivité a ses limites. Et elle peut carrément devenir toxique. Parce qu'il arrive qu'on ait juste envie de grincer des dents lorsqu'on nous sert le fameux « ça va bien aller » ou qu'on nous ressort le classique « ça pourrait être pire ». Des experts nous expliquent comment éviter de tomber dans le piège de la positivité toxique. Quand elle a partagé sa première publication sur la positivité toxique sur son compte Instagram en 2019, la psychothérapeute américaine Whitney Goodman était loin de se douter que celle-ci deviendrait virale, et encore moins qu'elle finirait par écrire un livre sur le sujet qui ferait mouche au point d'être traduit dans une vingtaine de langues dans le monde. Publié plus tôt ce printemps au Québec aux éditions de l'Homme, l'ouvrage « Positivité toxique, se libérer de la dictature du bonheur pour aller vraiment mieux » est né alors que les conseils du genre « tenez un journal de gratitude, écrivez 10 pensées positives » ou encore « collez des post-it de pensées positives partout dans la maison » explosaient parmi son cercle de thérapeutes. « Je me hérissais toujours face à ce genre de pratique », dit Whitney Goodman, jointe par visioconférence chez elle, en Floride. « J'avais juste ce sentiment de « Oh mon Dieu, je déteste ça !» En même temps, des patients désemparés venaient la consulter en lui disant « Je ne devrais pas m'en faire avec ça, je dois juste penser de façon positive, j'ai tellement de raisons d'être reconnaissant. » Quelques-uns d'entre eux se sentaient même honteux d'éprouver des sentiments considérés comme négatifs. Il y a des moments où être positif peut être très bénéfique, mais il y a aussi des moments où être positif ou trop positif peut être nuisible, renchérit Alexandre Lamoureux, doctorante en psychologie clinique à l'Université de Moncton. Celle qui est également interne au Centre Mieux-être Mind at Peace au Nouveau-Brunswick a commencé à s'intéresser de près à ce sujet relativement nouveau, mais très en vogue depuis la pandémie, à son avis. Parfois, on tente à vouloir se confier, puis on fait face à des réactions comme « c'est pas si grave, ça va passer, il faut regarder le côté positif des choses ». L'effet que ça avait sur moi, personnellement, n'était pas vraiment aidant. Mon émotion voulait quand même sortir. Ça isole plus qu'autre chose, avance Alexandre Lamoureux. Être positif au bon moment. Mais alors, à partir de quand la positivité cesse-t-elle d'être saine pour devenir toxique? Il faut toujours évaluer le moment, votre public et votre objectif dans la situation en question, estime Whitney Goodman. Quand quelqu'un se trouve dans un moment de détresse, la meilleure chose à faire est de lui demander « Quelle serait la chose la plus utile que je pourrais faire pour toi en ce moment? As-tu besoin d'être motivé? Veux-tu juste que je m'assoie avec toi? » Si la personne pleure, si elle est manifestement contrariée par quelque chose, ce n'est pas le moment d'être positif. Attendez qu'elle sorte un peu de cet espace, propose Whitney Goodman. Selon la psychothérapeute, 9 fois sur 10, les gens veulent juste qu'on soit là avec eux, qu'on leur montre qu'on n'a pas peur de leur douleur et qu'on sera une ancre pour eux dans cette situation. Si l'on prend, en revanche, le contexte de la pandémie ou tout autre grand moment d'adversité, quand on sait qu'on baigne dans un environnement sur lequel on n'a pas le contrôle pour une période indéfinie ou indéterminée, précise Alexandre Lamoureux, adopter une attitude positive permet de trouver une lumière à laquelle se rattacher. On appelle ça l'optimisme tragique. C'est un terme qui avait été inventé par Viktor Frankl, un survivant d'un camp de concentration nazi, note la doctorante. Mais la positivité devient toxique lorsqu'on surgénéralise cette attitude à tel point qu'elle vient diminuer l'importance d'une expérience qui est difficile à vivre, explique-t-elle. Un bon exemple est celui d'une personne qui vient d'apprendre qu'elle a une maladie chronique. Elle est présentement sous le choc. Elle vit beaucoup d'émotions, peut-être de la colère, un très grand découragement. Donc, quand la personne est encore dans cette émotion-là, on doit lui laisser le temps de la vivre pour ne pas minimiser ou réprimer tous les sentiments qu'elle peut avoir par rapport à cette nouvelle, dit Alexandre Lamoureux. Toutes ces phrases qu'on entend parfois ou qu'on dit peut-être aussi soi-même, ce n'est pas si grave, ou ça ira mieux demain, elles ont un effet nuisible du côté de la personne qui les reçoit. L'empathie, l'écoute active et la validation des sentiments deviennent alors la clé, à son avis. Et parfois, souligne Alexandre Lamoureux, on a juste besoin de pleurer sur l'épaule de quelqu'un. Pleurer, c'est un excellent moyen d'exprimer ses émotions. C'est vraiment très libérateur en soi. Adopter la bonne attitude. Que faire pour éviter d'être exposé à de la positivité toxique et surtout se garder d'en répandre? Exemples et conseils. Dans un contexte professionnel. J'ai un patron qui est trop positif et je n'aime pas la façon dont il cherche à me motiver, illustre Whitney Goodman, psychothérapeute et autrice du livre « Positivité toxique, se libérer de la dictature du bonheur pour aller vraiment mieux ». Sur quoi est-ce que je peux agir dans cette situation? Cherchez des soupapes de ventilation, d'autres personnes qui vous permettront d'exprimer et de vivre vos émotions dans un espace où vous vous sentez validé et compris, conseille la psychothérapeute. Il sera ainsi plus facile, selon elle, de tolérer ce type de personnes à petite dose. Mais si l'on n'arrive tout simplement pas à travailler dans un tel environnement, ajoute Mme Goodman, il faudra alors évaluer le rapport avantage-coût afin de déterminer si la situation est viable à long terme ou s'il vaudrait mieux chercher un nouveau milieu de travail. Quand on est parent, vous entendez souvent des parents dire que tout ce qu'ils veulent, c'est que leur enfant soit heureux et en santé, ajoute Whitney Goodman. Souvent même avant la naissance. Je recommande toujours qu'on ne fasse pas du bonheur le but ultime de l'enfance, dit Whitney Goodman. À son avis, les parents doivent laisser les enfants expérimenter toutes sortes de situations pour qu'ils deviennent des adultes bien adaptés et ne pas chercher à escamoter celles qui seraient potentiellement négatives. Même avec de très jeunes enfants, insiste la psychothérapeute. Il faut leur permettre de vivre des sentiments de déception, de colère, de bouleversement de manière sécuritaire, tout en validant leurs émotions. Même si ça nous semble ridicule qu'ils s'en fassent pour une tasse, par exemple, il vaut mieux leur dire « Je comprends, tu voulais la tasse bleue, tu as eu la tasse rouge », et être avec eux, plutôt que de chercher la fameuse tasse bleue à tout prix afin d'éviter qu'ils soient contrariés. Avec tout être cher. De façon générale, c'est très difficile d'être témoin de la souffrance humaine, souligne Alexandre Lamoureux, doctorante en psychologie clinique à l'Université de Moncton. Encore plus quand ce sont nos enfants ou des personnes pour lesquelles on a un grand attachement émotionnel. Le réflexe, à son avis, sera de bondir pour dire à ce proche que ça va être correct. C'est ce qu'on voit dans le cas de parents qui essaient de surprotéger leurs enfants ou qui essaient d'écarter des émotions déplaisantes ou de grands défis, précise-t-elle. Selon elle, il suffit parfois d'un geste, d'un contact visuel ou d'une simple présence compatissante. Puis tranquillement, après ça, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire, de quoi la personne a besoin. C'était « Quand la positivité devient toxique », un texte de Leïla Malouf paru le 4 juin 2023 dans la presse.
Révolution tranquille. Un texte de Kim Thuy, paru le 18 juin 2023 dans La Presse. Le Québec est partout. Ou plutôt, partout où je vais, la culture québécoise est omniprésente. Comme des millions de touristes, j'adore visiter le Japon. C'est pourquoi je me suis embarquée un jour dans l'avion, sans me préparer, pour une invitation à Tokyo par l'Association japonaise des études québécoises. Je me suis retrouvée dans une salle de classe universitaire en plein cœur de cette fascinante mégalopole. À ma grande surprise, devant de nombreuses rangées étroites, de longues tables, le premier professeur japonais a présenté pendant une heure, dans un français impeccable, son travail sur la nordicité de la langue de Gaston Miron. La deuxième, tout aussi rigoureuse, a analysé la ponctuation phraséale d'Anne Hébert. La troisième a enchaîné avec la féminisation des titres. L'après-midi a continué au même rythme, avec la même curiosité pour la littérature québécoise. Le lendemain, j'étais invitée devant une classe de plus de 100 étudiants inscrits à un cours consacré uniquement au Québec. Ensuite, à Kanda, une ville située à environ une heure de train de Tokyo, quelques étudiantes d'un autre cours sur la culture canadienne, anglophone et québécoise sont venues me saluer en me montrant fièrement leur T-shirt du restaurant La Banquise où elles avaient mangé des poutines à 3 heures du matin. À New Delhi, le professeur Alex Noël m'a reçu dans sa classe de littérature québécoise alors qu'à Bombay, Mumbai, la professeure, Dr. Vidya Venkatesan, a prolongé notre rencontre dans ma chambre d'hôtel, accompagnée de quelques-unes de ses étudiantes. Une autre professeure à Jaipur revient régulièrement au Québec avec son mari et son fils pour se replonger dans une culture qu'elle enseigne avec affection et attachement depuis une dizaine d'années. En Roumanie, à Lace, une ville près de la frontière avec la Moldavie, une longue conversation suivie d'un long repas où plusieurs ont partagé leurs livres québécois préférés, enrichis souvent de citations et d'anecdotes, qui venaient renforcer leur lien et amour inconditionnel pour ce lieu où vivaient une cousine, un frère, une tante. Au Salon du livre à Kyiv, avant la guerre, les livres qui se vendaient le mieux à ce moment portaient des noms québécois. « Le poids de la neige » de Christian Gay-Poliquin et plus d'un livre de Larry Tremblay. En Allemagne, India Desjardins accompagne les jeunes alors que Michel Jean rejoint la gauche et la droite en passant par le centre. De plus de 60 000 nouveaux titres sortis en France chaque année, Antoine Desjardins s'est taillé une place de choix dès son premier livre, tout comme Kevin Lambert, pour n'en nommer que deux. Le Musée de la poésie à Édimbourg à une section de recueil de poèmes de nos poètes et poétesses québécois les plus illustres, alors qu'une salle, en plein cœur de l'Université de Pékin, Beijing, était réservée aux livres québécois uniquement. En 2023, le prix Dublin Literary Award, qui ne considère que les livres proposés par des bibliothécaires de 80 pays, a retenu 70 livres. Dans cette liste prestigieuse, trois écrivaines québécoises se retrouvent. J'ai été témoin de tant de discussions animées et intéressées, en privé ou devant public, à propos de notre façon de faire et de réfléchir à Varsovie, à Suzhou, à Bruxelles, à Bangkok, à Brême, à Taipei, au Wisconsin, à Bogota, à Reims, à Mantova, à Mexico, dans le Périgord, à Princeton, à Angoulême, à Madison, à Genève. J'ai arrêté de compter le nombre d'étudiantes et d'étudiants en maîtrise et au doctorat qui mentionnent dans leurs thèses et mémoires Marie-Claire Blais, Michel Tremblay, Louis Aymon, Dany Laferrière, Naomi Fontaine, Hubert Aquin, Michel-Marc Bouchard, Joséphine Bacon. Pourquoi la voix du Québec est-elle si convoitée, si écoutée, si répandue? Ma réponse s'est révélée peut-être autour d'un café à Vernon où les gens venant des cinq continents ont avancé l'idée que la liberté est aux États-Unis ce que l'égalité est à la France. Dans cet élan, ils m'ont demandé quelle serait l'enseigne au Québec. Comme il fallait réduire à un mot, j'ai choisi l'humilité. L'humilité de ne pas penser que le modèle québécois de liberté et d'égalité est unique ou que nous ayons toutes les réponses. Bien au contraire. Nous avons la soif d'apprendre. Nous traversons les frontières physiques et culturelles avec l'ouverture des aventuriers et la politesse des pèlerins. Nous forgeons notre identité collective en accueillant les réflexions des uns, en écoutant les coutumes des autres, en embrassant d'aplomb l'inusité et l'innovation. Nous nous permettons la liberté des intuitions et l'audace des envies. Nous avançons avec la ferveur des curieux et la débrouillardise des patenteux, tout en gardant le calme et le respect des bienveillants. Peut-être que mes collègues m'ont trouvé quelque peu chauvine, mais ils ont tous acquiescé avec enthousiasme, exprimant même le souhait que l'humilité à la québécoise devienne contagieuse. À vrai dire, je me donne le droit d'être tranquillement fier. Nous sommes 8 787 554 personnes à marcher bras dessus, avec une force tranquille et résiliente. Nous sommes 8 787 554 à recevoir le monde entier dans nos bras avec une assurance tranquille et profonde. Nous sommes 8 787 554 à semer à tout vent notre identité québécoise avec une humilité tranquille et ancrée, grandiose. C'était Révolution tranquille, un texte de Kim Thuy, paru le 18 juin 2023 dans La Presse. Un examen médical, en as-tu vraiment besoin? » Un texte de Philippe Mercure, paru le 8 juin 2023 dans La Presse. À l'heure où nos médecins, infirmières et techniciens médicaux sont débordés, la statistique attire l'attention. Jusqu'à 30 % des examens et des traitements médicaux effectués au Canada seraient inutiles. Il y a là autant une aberration à comprendre qu'une piste de solution pour mieux soigner nos malades et atténuer l'engorgement de nos systèmes de santé. Le chiffre de 30 % a été avancé en 2017 par l'Institut canadien d'information en santé. Cette semaine, des médecins se sont réunis à l'invitation du Collège québécois des médecins de famille pour en discuter. La grande conclusion de l'exercice, tant les médecins que les patients ont une importante prise de conscience à faire. Nous avons tous intégré la notion que plus on diagnostique une maladie tôt, meilleures sont les chances de guérison. On pense au cancer, par exemple. Cela reste généralement vrai. Mais des problèmes peuvent survenir quand on se met à multiplier les examens et les tests de dépistage à l'aveugle, au cas où. L'Institut canadien d'information en santé a notamment identifié 12 procédures médicales qu'il considère comme surutilisées. Un exemple. Envoyer un patient qui a mal au bas du dos, sans autre signe inquiétant, passer un examen d'imagerie médicale. Ou faire passer une radiographie à un enfant qui souffre d'asthme ou de bronchiolite. Ces procédures exposent les patients à des radiations. Elles prennent de leur temps. Elles leur causent de l'inquiétude. Il peut arriver qu'on trouve quelque chose d'inattendu avec un test, un nodule sur un poumon, un indicateur dans le sang anormalement faible ou élevé. La plupart du temps, on s'embarque alors dans un engrenage qui conduira à une multiplication des investigations, le tout pour finalement dire au patient « on s'est inquiété pour rien ». C'est la cascade de tests. On trouve quelque chose, il faut faire d'autres tests pour investiguer cette trouvaille, on trouve autre chose, et ainsi de suite. Statistiquement, on sait pourtant que la plupart des trouvailles fortuites ne sont pas dangereuses, décrit le docteur René Whitmer, président de « Choisir avec soin Québec », une campagne qui vise la réduction des examens et des traitements inutiles. La même chose est vraie pour les traitements. Prescrire des antibiotiques par simple précaution. Effectuer une césarienne pour un accouchement qui n'est pas à risque. Recommander des psychostimulants à un enfant simplement turbulent. On soupçonne depuis longtemps un surdiagnostic des TDAH au Québec. Ça aussi, ça expose les patients à risque. En plus du bien-être des patients, il y a la question de dégager les professionnels surchargés. Les médecins qui militent pour une meilleure utilisation des procédures médicales sont réticents à utiliser cet argument de peur d'avoir l'air de vouloir travailler moins au détriment de la santé des patients. Nous le ferons donc ici pour eux. Considérant l'engorgement actuel du réseau, il est impératif de s'attaquer à l'inutile. Les pistes de solutions sont nombreuses. D'abord, on sait que les informations médicales circulent mal dans le réseau de la santé. Souvent, un professionnel qui intervient auprès d'un patient ignore ce qui a été fait précédemment. Cela peut conduire à un dédoublement des procédures. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, vient de faire adopter une loi sur les renseignements en santé. On espère des améliorations. On voit ensuite de plus en plus d'entreprises privées offrir des bilans de santé complets payants. Leur intérêt financier est clair. Celui des patients et du système de santé, beaucoup moins. Il faut dénoncer ces parties de pêche qui coûtent cher à tout le monde et embourbent le système pour rien. Les publicités de médicaments du genre « Parlez-en à votre médecin » peuvent aussi inciter les patients à réclamer des traitements inutiles. Il faut finalement une meilleure conscientisation des patients et des médecins. Ces derniers sont déjà en train d'établir des lignes directrices visant à baliser l'utilisation de diverses procédures. Tant mieux. Quant aux patients, ils doivent résister à l'envie de réclamer à leur médecin toutes les procédures dont ils ont appris l'existence sur Dr. Google et réaliser que le bon vieux dicton « trop, c'est comme pas assez » peut aussi s'appliquer en médecine. C'était un examen médical. En as-tu vraiment besoin? Un texte de Philippe Mercure, paru le 8 juin 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.usevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.